Bonjour. Ce matin, nous allons méditer un passage dans la lettre de Paul aux Philippiens, puisque nous sommes en plein cœur d'une série sur cette lettre de Paul. Et ce matin, j'ai eu la charge d'étudier un passage que souvent on saute quand on le lit. Un passage qui a pas vraiment l'air intéressant de prime abord, parce que souvent quand on lit la Bible, eh bien on la lit pour trouver quelque chose qui va nous frapper, va nous apprendre des choses sur Dieu, une exhortation, quelque chose qui va un peu changer le cours de notre existence. Et là, le passage de ce matin est un passage circonstanciel, avec un contexte, un passage qui a l'air de concerner surtout Paul, et donc pas tellement nous, et donc que nous sautons souvent quand nous lisons cet épître. Alors avant de lire le passage, il va peut-être falloir contextualiser un peu, vous dire dans quel contexte cette lettre, par exemple, a été écrite, et aussi vous présenter un petit peu les personnages qui interviennent dans ce passage. Comme ça, vous allez être un peu moins perdu quand je vais lire le passage. Alors dans cette lettre aux Philippiens, quand il écrit cette lettre aux Philippiens, Paul est en prison. Il est en prison, donc il n'est pas vraiment libre de ses mouvements. On ne sait pas trop où il était en prison, mais en tout cas, on sait qu'il est en prison. Les Philippiens, donc ils habitent à Philippe, dans la ville de Philippe, en Macédoine, donc au nord de la Grèce. Les Philippiens, c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul quelques années auparavant, et ces Philippiens décident d'aider l'apôtre Paul en lui envoyant de l'argent dans sa prison et en lui envoyant aussi un assistant qui vient de Philippe qui s'appelle Épaphrodite. Donc Épaphrodite va de Philippe à la prison de Paul avec de l'argent dans ses poches et avec son propre corps pour assister Paul dans son service pour les églises. Même s'il est dans une prison, il continue d'écrire, il continue d'avoir des gens qui viennent le voir. Donc Paul a encore pas mal d'activités, même s'il est en prison. Mais Épaphrodite, quand il va voir Paul dans sa prison, tombe gravement malade. Il tombe gravement malade, peut-être en chemin pour aller jusqu'à Paul, ou au moment où il rejoint Paul dans sa prison, il tombe gravement malade. Et après un séjour auprès de l'apôtre Paul dans sa prison, Paul décide de le renvoyer à Philippe avec la lettre aux Philippiens. Voilà. Donc Épaphrodite retourne dans sa ville d'origine, dans son église d'origine, et revient avec la lettre aux Philippiens que nous avons dans notre Bible. Et voilà notre passage. Voilà ce que Paul écrit à ce propos dans la lettre aux Philippiens. Donc n'oubliez pas, c'est Paul qui écrit aux Philippiens qui viennent de revoir Épaphrodite qu'ils avaient vu partir quelques mois auparavant. Donc c'est Philippiens 2 à partir du verset 19. Philippiens 2 à partir du verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, pour être moi-même rasséréné par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Tous les autres, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves. Tel un enfant auprès de son père, il a travaillé avec moi, comme un esclave pour la bonne nouvelle. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Je suis d'ailleurs persuadé dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, l'apôtre que vous m'aviez envoyé en le chargeant de pourvoir à mes besoins. Comme il a une vive affection pour vous tous, il était fort peiné que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu compassion de lui, et non pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement pour que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie entière. Honorez de telles personnes, car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été prêt de mourir. Il a risqué sa vie afin de suppléer à votre absence dans votre service pour moi. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Merci Père de nous donner ta parole pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous exhorter. Merci de nous donner ton esprit pour nous changer, pour nous faire comprendre cette parole et changer et ressembler toujours plus à ton Fils Jésus. Seigneur, pendant ce moment de méditation, que ton esprit soit vraiment à l'œuvre en nous. Fais taire dans nos cœurs, dans nos têtes, ce qui pourrait créer des parasites entre toi et nous. Et Seigneur, aide-nous à voir ton œuvre, à penser à ton œuvre, à penser à te glorifier pendant ce temps. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors vous avez remarqué dans ce passage, il y a deux héros. Comme on n'est pas beaucoup, je pourrais vous poser la question, mais comme j'ai peur de me sentir quand même un peu seul, je vais vous donner quand même les réponses. Les deux héros de ce passage sont Timothée et Épaphrodite. Timothée et Épaphrodite. Paul décrit ces deux personnages, Timothée et Épaphrodite. Timothée qui doit bientôt aller à Philippe et Épaphrodite qui est déjà à Philippe avec la lettre aux Philippiens. Pourquoi est-ce qu'il les décrit ? C'est parce que la fonction de Timothée et d'Épaphrodite, c'est de faire le lien entre Paul et l'église de Philippe. Et c'est là la thématique de notre passage. C'est le lien entre l'apôtre et l'Église qu'il a fondée quelques années auparavant. Un lien qui doit être maintenu. Un lien que l'apôtre veut maintenir et que l'Église de Philippe veut maintenir. Parce que le lien entre Paul et l'Église de Philippe est une question de responsabilité et de souci de l'autre. Paul a travaillé quelques semaines, vous voyez ça dans le livre des Actes, pour fonder cette église de Philippe en Macédoine. Il était dans une autre ville et il y a carrément un ange qui est venu lui parler en songe. Il a vu quelqu'un de Macédoine dire « Viens à notre aide, viens à notre aide ». Et Paul est allé en Macédoine, il a annoncé l'évangile et il a créé cette église en Macédoine dans la ville de Philippe. Il est resté quelque temps dans cette ville de Philippe, mais il a été obligé de partir parce que, comme souvent dans le livre des Actes, Paul est poursuivi par des ennemis juifs qui veulent l'empêcher de proclamer l'évangile, de parler de Jésus à la population. Donc comme il est poursuivi par des gens qui veulent lui casser la figure littéralement, il est obligé de s'en aller. Et le problème, c'est qu'il vient de fonder une église avec pas mal de gens qui sont d'origine païenne, donc qui n'ont pas tellement l'habitude de lire l'Ancien Testament et de comprendre l'Ancien Testament, mais n'empêche qu'il est obligé de partir quand même. Alors des fois, il arrive à laisser un de ses collaborateurs continuer le travail à sa place, et des fois non. Alors, il écrit des lettres pour exhorter les chrétiens à continuer d'être ancré dans les Écritures, à continuer de vivre comme des disciples de Jésus. Et c'est là le souci de responsabilité de Paul dans cette lettre aux Philippiens, c'est qu'il envoie cette lettre aux Philippiens pour les exhorter à continuer d'être des disciples dignes de Jésus. Paul ne veut pas perdre le fil, Alors, sûrement parce qu'il a une certaine affection pour les Philippiens, mais surtout parce que le travail qu'il a commencé, il veut le continuer. Il n'est pas du genre à commencer un travail, avoir un petit succès, et puis à se barrer ailleurs pour avoir un autre succès, sans soucier de ce qui s'est passé derrière. Lui, il veut que les chrétiens croissent, que les chrétiens continuent d'être édifiés jour après jour. Paul est un apôtre responsable qui a le souci des Philippiens. Et il a le souci des Philippiens moins parce que les Philippiens lui sont chers que parce qu'il a un amour pour Jésus. Il veut que les Philippiens croissent en Jésus. Il veut que Jésus soit toujours plus connu des Philippiens pour l'intérêt des Philippiens et pour l'intérêt de Jésus. Voilà son seul souci à Paul. Mais de l'autre côté, les Philippiens, finalement, font pareil que Paul. Ils font pareil que Paul parce que, en choisissant de soutenir Paul, de lui envoyer de l'argent, en choisissant de leur envoyer Épaphrodite comme un serviteur à plein temps pour l'aider dans sa prison, les Philippiens ont le souci du travail missionnaire de Paul. Les Philippiens auraient pu se dire « Voilà, Paul, c'est le fondateur de notre Église, qui était là il y a quelques dizaines d'années. Mais bon, il est parti, la vie continue. Maintenant, nous devons nous soucier de notre vie. Nous devons nous soucier de peut-être pouvoir payer un pasteur à plein temps. Maintenant, Paul, c'est bon, il est parti, on passe à autre chose. » Les Philippiens choisissent de continuer de soutenir Paul avec de l'argent et avec Épaphrodite, parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont reçu de la part de Paul, d'autres personnes vont le recevoir, et ils sont pour que d'autres personnes connaissent l'Évangile comme eux l'ont connu. Et donc, ils veulent soutenir Paul dans son effort missionnaire. Et là encore, c'est pas uniquement à cause d'une certaine affection envers Paul, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il pense que l'Évangile est la chose la plus importante pour l'humanité. Et puisqu'il pense que cet Évangile est la chose la plus importante pour l'humanité, eh bien, ils choisissent de soutenir celui qui a pour fonction, pour métier, de promouvoir cette plus belle nouvelle pour l'humanité. Dans ce passage, Paul nous décrit les qualités de Timothée et d'Épaphrodite. Et vous pouvez voir, ou vous pouvez peut-être vous rappeler, si vous n'avez pas votre Bible sur vous, des qualités de ces deux hommes. Timothée, vous savez, c'est le bras droit de Paul, c'est le fils spirituel de Paul, le fils spirituel dans le sens où c'est lui qui est appelé à prendre sa suite, c'est lui qui a tout appris de Paul. La qualité principale de Timothée dans ce passage, c'est qu'il a le même souci que Paul des Philippiens. Paul dit aux Philippiens, tous ceux qui m'entourent là ne se soucient pas de vous. Il n'y a que Timothée dans mon entourage qui se soucie de vous. Et donc il n'y a que lui qui serait prêt prochainement à venir vous voir pour peut-être des exhortations, mais aussi pour après revenir vers Paul pour avoir des nouvelles, pour lui donner des nouvelles de l'église de Philippe. Tous les autres s'en fichent de cette église de Philippe. Et alors, c'est pas forcément que les autres sont laxistes ou que voilà, ils n'aiment pas les Philippiens. C'est sûrement parce que, eh bien, ils n'ont jamais été à Philippe. Paul, quand il a fondé l'église de Philippe, eh bien, il avait avec lui Timothée. Et donc, Timothée et lui connaissent les gens qui sont là-bas. Et donc, ils ont ce souci des gens qui sont là-bas parce qu'ils les connaissent. Quand on connaît pas des gens, bon, on peut toujours s'en faire une image mentale, mais on a du mal à aimer des amis imaginaires. Timothée aime profondément les Philippiens parce qu'il était avec Paul dans son voyage missionnaire avec eux. C'est la première raison, mais la deuxième raison, au verset 22, c'est que Timothée est comme Paul, il est un esclave de la bonne nouvelle. Il est un esclave de la bonne nouvelle. C'est aussi son travail, c'est aussi sa raison d'être, sa raison de vivre. Sa raison de vivre, c'est que la bonne nouvelle croisse chez les croyants. Et donc, pour Timothée, c'est aussi quelque chose de naturel, presque même s'il ne connaissait pas les Philippiens, eh bien, il lirait quand même vers les Philippiens, parce que dans son ADN, il y a la croissance des chrétiens. Dès qu'on dit à Timothée ou à Paul, faut aller à cet endroit-là parce que les chrétiens qui sont là, eh bien, connaissent mal la Bible, ils ont vraiment du mal à s'en sortir dans leur vie chrétienne, ils y vont tout de suite. Ils y vont tout de suite parce que c'est leur truc. C'est leur truc. Et c'est ça aussi la qualité principale de Timothée, c'est qu'il est obsédé par la croissance des chrétiens. Pour Épaphrodite, ses qualités sont à peu près les mêmes que pour Timothée. Paul salue son courage, malgré la maladie. Malgré la maladie, il a voulu rester auprès de Paul. Il y est allé, il s'est porté volontaire déjà chez les Philippiens pour aller voir Paul, pour prendre des risques. Il avait de l'argent avec lui, et je vous rappelle qu'à l'époque, les routes n'étaient pas tout à fait sûres. La distance entre la ville de Philippe et l'incarcération de Paul, on ne sait pas tellement où il était incarcéré, mais c'était plusieurs centaines de kilomètres quand même, donc il risquait quand même de se faire détrousser pas mal de fois. Il a pris des risques, mais en plus, il est tombé malade. Il est tombé malade. Il y a été au péril de sa vie. Et Paul, au verset 29, dit aux Philippiens, accueillez Épaphrodite dans le Seigneur avec une joie entière, honorez de telles personnes, honorez des gens comme Épaphrodite. Car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été prêt de mourir, il a risqué sa vie afin de suppléer à votre absence dans votre service pour moi. Paul leur dit, vraiment honorez-le parce que vous ne pouviez pas m'aider. Et lui, il a rendu possible votre aide. Grâce à Épaphrodite, vous avez pu m'aider. Il n'y aurait pas eu Épaphrodite, j'aurais ni eu d'argent, ni eu de serviteur à plein temps. Honorer des personnes comme ça. Donc vous voyez, le point commun entre Timothée et Épaphrodite, c'est le sacrifice de soi. C'est le sacrifice pour le service de l'Évangile. Être prêt à se bouger, à se sacrifier pour le royaume de Dieu. C'est ça le grand thème de ce passage. Être prêt à y aller. Être prêt, toujours prêt finalement, à se bouger pour le royaume de Dieu. Et finalement, c'est la définition du partenariat dans la mission qui est sous nos yeux. Parce que vous voyez, les Philippiens, ceux qui sont dans l'église de Philippe, eux n'ont pas bougé. Mais n'empêche qu'ils ont participé à la mission. Ils n'ont pas pu bouger, mais ils ont envoyé quelqu'un qui a bougé à leur place. Épaphrodite, lui, il a bougé pour de vrai. Paul est un peu comme les Philippiens, il est un peu cloué en un endroit précis, il ne peut pas bouger, mais il va envoyer Timothée pour bouger à sa place. Ils vont s'écrire, il y en a qui vont envoyer de l'argent. Paul va pas envoyer d'argent, mais il va envoyer des exhortations. C'est un échange de bons procédés entre des gens qui sont à distance, mais toujours avec le souci de l'autre, le souci de la croissance de l'autre, le souci de la croissance de l'Évangile. C'est vraiment la grande thématique de ce passage. Mais quand on lit ce passage, on peut aussi se poser une question par rapport à la maladie d'Épaphrodite. Et plusieurs théologiens se sont posés cette question parce que, vous savez, Paul, il avait le don de guérison. On voit dans les Actes, il y a plusieurs personnes qui soit étaient possédées, soit sont carrément mortes. Paul a fait quelque chose et les personnes ont été libérées ou ont été ressuscitées. Dans ce passage, Épaphrodite, apparemment, a été malade, il est passé tout près de la mort. Et a priori, Paul a laissé faire. Paul n'a pas, apparemment n'est pas intervenu. Et il ne dit pas, en fait, je l'ai guéri. Non, il a guéri par la grâce de Dieu. C'est assez intéressant de voir que, même à cette époque où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles, Dieu a laissé quand même Épaphrodite être très gravement malade et il l'a guéri lui-même. Et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à cette maladie. Aujourd'hui, vous savez, il y a des églises pseudo-chrétiennes qui disent que si on est réellement chrétien, on ne doit pas tomber malade. Si on est chrétien, on doit être riche et en bonne santé. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui fait beaucoup de mal en Afrique, par exemple. Un évangile, un faux évangile, hein, qui dit que normalement on ne doit pas être malade et on ne doit pas être pauvre. Eh bien, ce passage nous montre en fait qu'on peut être quelqu'un, un serviteur zélé, un serviteur qui reçoit les louanges de l'apôtre Paul lui-même, mais on peut quand même être malade. Par contre, ce qu'on voit aussi dans ce passage, c'est que Paul en fait beaucoup pour dire aux Philippiens, honorez Épaphrodite, c'est mon collaborateur, l'apôtre que vous m'avez envoyé, c'est un serviteur fidèle. Paul en fait des tonnes pour dire que Épaphrodite est quelqu'un de bien. Et là encore, les théologiens pensent que si Paul fait tout cela, c'est pour que les Philippiens reçoivent bien Épaphrodite. Pourquoi est-ce que les Philippiens seraient tentés de mal recevoir Épaphrodite, d'après vous ? Eh bien, parce que peut-être qu'ils ont envoyé Épaphrodite pour servir Paul à plein temps et le plus longtemps possible. Alors vous imaginez, hein, vous envoyez quelqu'un en disant « tu vas aider Paul qui a 300 bornes là, donc tu vas faire aller 2 semaines de voyage, et puis tu vas y rester, 3-4 ans quoi, hein, et puis tu reviendras dans quelques années. » Et là vous le voyez revenir dans 3 mois, 3 mois après. Et là vous le voyez revenir, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est bon, on t'a payé ton voyage là, t'es quoi, t'es un tir au flanc, pourquoi est-ce qu'on t'a envoyé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils auraient pu en fait lui reprocher un manque de zèle, un manque de persévérance. Ils auraient pu lui dire finalement, tu as failli dans ta mission. Et là, Paul, dans notre passage, est en train de dire aux Philippiens, Épaphrodite n'a pas failli dans sa mission. C'est moi qui ai choisi de vous le renvoyer, parce que vous étiez triste de savoir qu'il était malade, et peut-être parce que lui, il avait finalement le mal du pays, et donc je vous le renvoie. Mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Et c'est là où on peut peut-être mesurer, encore une fois, le souci de l'autre. Les Philippiens avaient tellement le souci de l'apôtre Paul que finalement, ils auraient peut-être été tentés de mal recevoir Épaphrodite en lui disant « Hé, il y a l'apôtre Paul qui a besoin de toi, et toi, qu'est-ce que tu fais chez nous, finalement ? Repars auprès de lui. » Non, Paul leur dit « Eh bien, Épaphrodite a bien rempli sa mission. » Alors, à quoi sert ce passage ? À quoi sert ce passage pour des chrétiens du XXIe siècle ? Premièrement, ce passage nous prouve que les lettres des apôtres ne sont pas des traités théologiques. Que les lettres des apôtres sont dans un vrai contexte. C'est pas quelqu'un qui a écrit en prenant le nom de Paul, qui a voulu donner des leçons théologiques aux chrétiens de tous les temps, et qui s'est servi finalement d'une situation, d'une église imaginaire avec un apôtre imaginaire, qui a voulu transmettre un enseignement. Non, c'est le vrai apôtre Paul qui s'est adressé à la vraie église de Philippe, et on en a la preuve avec ce genre de passage, parce qu'il parle de personnes, et comme Épaphrodite, qui n'apparaît dans la Bible que dans notre passage. Que dans la lettre aux Philippiens. Il apparaît nulle part ailleurs. S'il n'y avait pas eu la lettre aux Philippiens, Épaphrodite serait totalement inconnu depuis 2000 ans. Là, on le connaît parce que justement, incidemment, Paul en parle pour décrire que c'est finalement lui l'apôtre. C'est lui qui a fait le lien entre l'église de Philippe et lui-même. Les lettres du Nouveau Testament sont de vraies lettres qui correspondent à de vraies situations. Paul a existé et l'église de Philippe a existé. Sinon, il n'y aurait pas ce genre de détails. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer. Le deuxième enseignement, qui peut être tiré à mon avis, je vais l'expliciter avec une citation. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est un poète qui s'appelle Pierre Reverdy qui a dit cette chose. Et je pense que c'est assez vrai. Dans ce passage, on voit que voilà, finalement, il y a une certaine affection entre Paul et les Philippiens. Mais finalement, ce qui matérialise cette affection, cet amour, bah, c'est le fait que finalement on communique ensemble, c'est qu'on envoie de l'argent, c'est qu'on envoie des exhortations pratiques pour être édifié dans l'évangile, c'est que finalement on envoie des personnes qui se mouillent pour faire ce lien. C'est ça qui matérialise cet amour. Sinon, en fait, finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vraiment, relationnellement, au niveau de la communion entre Paul et les Philippiens, eh bien, on peut se dire, c'est leur volonté de garder ce lien, c'est leur volonté de croître dans l'évangile, de faire. Si Paul et les Philippiens s'en tiennent juste à leurs sentiments, eh bien, vous savez ce qu'on dit encore, loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Quand on passe à autre chose et quand on s'attache à d'autres personnes, finalement, les gens qui ont été avant, eh bien, on finit par les oublier parce qu'on ne les revoit pas. Et Paul avait un itinérant que finalement, il s'attachait à des nouvelles personnes jour après jour, mois après mois. Et donc, les Philippiens qu'il a évangélisés, je sais pas, un ou deux ans avant, finalement, bah, il peut les oublier. Mais pourquoi est-ce qu'il ne les oublie pas? Mais parce que il a choisi de se rappeler d'eux. Il a choisi de se dire, j'ai commencé cette mission là-bas, je vais la terminer. Il ne s'est pas dit, bon, il y a bien quelqu'un qui va venir derrière moi. Mais je passe à autre chose. Non, il a choisi de terminer ce qu'il avait commencé. Et du côté des Philippiens, les Philippiens auraient aussi pu se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le fondateur qui est parti, maintenant on s'attache à d'autres enseignants. Non, ils se sont dit, Paul a un ministère très important dont nous avons bénéficié, nous voulons en faire bénéficier les autres. Et donc nous choisissons de garder l'apôtre dans nos cœurs, dans nos pensées, et nous choisissons de l'aider. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et cet amour, c'est la volonté d'aimer. Et pas un amour qui dépend de vagues sentiments temporaires, de critères comme ça un petit peu légers qu'on peut tous avoir pour dire, voilà, cette personne-là, elle a cette tête-là, ce caractère-là, je l'aime ou je l'aime pas. Non, l'amour, ça se décide dans la Bible. Et les Philippiens et Paul ont décidé de s'aimer et de matérialiser leur amour. Alors du coup, ça nous pose cette question pour terminer. Quel est notre engagement dans la mission? Quelle est notre implication dans la mission? Quand je dis mission, c'est pas la mission dans votre entourage proche. Ça, c'est pas de la mission, c'est votre témoignage, c'est le truc normal de tout chrétien. Tout chrétien est appelé à parler de son espérance à ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est normal. Quand je dis mission, c'est parler de l'évangile à des gens qui sont loin de vous, à un public qui vous est complètement extérieur. Comment faites-vous pour soutenir cette mission, pour être des vrais collaborateurs de missionnaires? Comment faites-vous? Je prends volontairement pas mon exemple parce que du coup, je ne veux pas me prêcher moi-même. Mais par exemple, en ce moment, vous avez des personnes qui sont à la prison. Ils sont nos missionnaires à l'intérieur du centre de détention de Châteaudun. On ne peut pas y aller, nous. Hein. Enfin, si vous voulez y aller, vous pouvez, parce qu'en fait, il suffit de vous donner votre carte d'identité à Pierre-Jean. Mais n'y allez pas tous, parce que sinon, on va être encore moins de 30 au culte les premiers dimanches du mois et on va se sentir assez seul. Mais vous pouvez y aller, mais si vous n'y allez pas, nous avons nos missionnaires qui sont là-bas. Que faites-vous pour soutenir cette mission auprès des personnes qui sont incarcérées? Que faites-vous auprès des personnes qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, pour soutenir le commerce équitable, par exemple, pour soutenir, alors vous connaissez tous le SEL, le service d'entraide et de liaison, que faites-vous pour soutenir ces personnes-là? Que faites-vous pour soutenir l'Église persécutée? Vous connaissez la revue Portes Ouvertes. Que faites-vous? Ce que vous faites, ou ce que vous ne faites pas, dépendra du lien que vous avez avec cette mission. Dépendra de ce qui est dans vos attaches. Alors voilà, vous connaissez, je sais pas, des détenus, ou si vous avez lu des histoires, un livre par exemple avec un détenu qui s'est converti en prison grâce à des gens qui lui ont transmis une Bible, et vous allez peut-être vous dire ah ça me motive et vous allez soutenir l'annonce de l'Évangile en univers carcéral. Si vous avez été genre je sais pas, vous avez fait un voyage au Burkina Faso et que vous avez vu la misère qui existe au Burkina Faso. Eh bien, vous allez peut-être revenir en vous disant « j'ai envie d'aider le Burkina Faso ». Et vous allez soutenir peut-être un enfant burkinabé, ou vous allez soutenir, je sais pas, une entreprise qui creuse un puits là-bas, parce que justement vous avez un lien. Peut-être que vous allez avoir des enfants, des petits-enfants qui sont étudiants, et vous allez vouloir soutenir les groupes publics universitaires parce que justement vous allez avoir connu des gens de votre famille qui vont avoir bénéficié de ce ministère. Mais c'est à cause de ça que vous allez soutenir. Sinon finalement vous avez aucune raison de le soutenir. Moi, quand je reçois la documentation du CEL sur le défi Miché, sur la répartition de la richesse dans le monde, eh bien, je dois vous dire, je m'en fiche. C'est pas que je trouve pas ça important, hein, que les richesses soient mieux réparties dans le monde. C'est juste que ça, c'est pas forcément mon truc. Mon truc, c'est autre chose. Et c'est pas grave. C'est pas grave que mon truc soit autre chose, du moment que j'ai un autre truc. La question, c'est comment êtes-vous impliqué dans le travail missionnaire? Est-ce que vous avez, dans votre tête, dans votre portefeuille, des personnes, des œuvres que vous pouvez soutenir, qui font le travail que vous ne pouvez pas faire? À mon avis, c'est la question que pose notre passage. Alors, c'est une question à laquelle il faut que nous répondions maintenant, ou cette semaine, ou ce mois-ci. Mais c'est, à mon avis, la question de ce matin. Que le Seigneur nous aide à être généreux et à prier, donner de l'argent et encourager ceux qui sont dans ces missions. Prier, donner de l'argent, encourager. Vous pouvez mettre des « ou » ou des « et » entre les trois éléments, mais s'il n'y a aucun des trois éléments, franchement, c'est un peu comme moi avec le défi Miché, ça veut dire que vous en fichez. Il faut être honnête. Alors que le Seigneur nous aide. Amen. Peut-être qu'on peut conclure ce moment